Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 9, Daf Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Somme Daf Tet Amud Aleph, première ligne. En choshechim, shema girera chulda mi bait le bait ou mi makom le makom. On ne craint pas qu'une belette a traîné d'une maison d'une maison qui n'a pas été vérifiée vers une maison qui a déjà été vérifiée, et donc à cause de cela on devra vérifier une nouvelle fois, ni d'un endroit qui n'a pas été vérifié vers un endroit qui a été vérifié. Demken, car si c'est ainsi que l'on craint une chose pareille, michatzer le chatzer, on devrait craindre qu'une belette a amené du chametz d'une cour qui n'a pas été vérifiée vers une cour qui a oui été vérifiée, ou mir leir, et d'une ville qui n'a pas été vérifiée vers une ville qui a oui été vérifiée, et elle n'a d'avoir sauf, et donc la chose n'a plus de fin. Et donc, on ne pourra jamais se reposer sur la vérification que nous avons faite. Donc, puisque c'est pour cela que l'on ne craint pas qu'une belette a traîné du chametz. Alors, l'Agma nous dit, Ta'ama de lo chazina de shakal. Toute la raison que l'on ne craint pas, c'est parce qu'on n'a pas vu que cette belette a pris du chametz. Ha chazina de shakal. Mais si nous avons vu que c'est une belette a pris du chametz et est rentrée dans une maison qui a été vérifiée, Rachinal, alors on doit craindre qu'il y a du chametz dans cette maison, ou ba'ebdika, et on doit donc vérifier une nouvelle fois. Ve'ama, et pourquoi cela, nima khaltia, pourquoi ne disons-nous pas que la belette a mangé le chametz, ce bout de pain qu'elle a fait rentrer dans cette maison? Milodna, n'avons-nous pas enseigné, medorot ha'akum temeim, les habitations des non-juifs dans la terre d'Israël sont impures. Et la raison pour laquelle sont impures, Rashi nous explique, car on craint qu'ils enterraient leur mort-né dans leur maison. Et or, un mort-né est impur, et donc nous craignons qu'il ait enterré ses mort-nés dans sa maison, et donc c'est pour cela que la maison entièrement est impure. Et combien de temps devra-t-il rester dans une habitation pour que l'habitation ait besoin d'être vérifiée si on y a enterré des mort-nés ou pas? 40 jours, c'est-à-dire le temps d'un embryon pour se créer. Ve'afalpi she'en lo isha. Et même si ce non-juif n'a pas de femme, de toute façon on doit craindre, car c'est possible qu'il ait des relations, même s'il n'est pas marié. Et chaque endroit, c'est-à-dire chaque habitation des non-juifs, s'il y a un endroit dans cette habitation où les belettes et les cochons peuvent se promener là-bas, on n'a pas besoin de vérifier, car nous disons que même s'il a enterré un mort-né là-bas, la belette ou le cochon l'ont déterré et l'ont mangé. Donc nous voyons ici qu'on peut se reposer sur le fait que la belette mange ce qu'elle trouve. Donc de même à propos du chametz, si elle a fait entrer du chametz dans une maison, on pourrait se reposer et dire qu'elle a mangé. Rabzira nous répond, « Lokasha, ce n'est pas une question. » Habebasar ve'abelechem. Ici c'est de la viande et ici c'est du pain. Bebasar lo meshera. Si c'est de la viande, elle ne laisse pas. Et donc la belette mange tout ce qu'elle a trouvé. Par contre, belechem dans du pain, meshera, elle oui, elle reste des restes. Amaravarava nous dit une autre raison. Hai mai. Quelle est cette question? Bish la ma'atam imurava imurloava. Je peux comprendre là-bas, car là-bas on a un doute. Est-ce qu'il y a eu un mort-né qui a été enterré ou pas? Veim timseloma rava, et même si tu me dis qu'il y en a eu un, imur khaltia, alors on a un second doute, est-ce que la belette l'a mangé ou pas? Et donc on peut se reposer sur ce doute-là, est-ce que la belette l'a mangé, pour aller à l'encontre du premier doute, est-ce qu'il y a eu un mort-né ou pas? Aval acha, mais ici, de vadaï de chazina de shakal, nous avons vu sûr que cette belette est rentrée avec du chametz dans la bouche, dans la maison. Alors, Mi'imarde Achaltia, qui nous a dit qu'elle a mangé. Et donc, avait sa fait Kouvadai. C'est donc un cas où il y a un doute et quelque chose de sûr. C'est-à-dire, c'est sûr qu'elle est rentrée dans la maison. Et c'est un doute, est-ce qu'elle a mangé ou pas. Ve'en, ça fait Kouvadai Vadai. Et un doute ne peut pas aller à l'encontre de quelque chose de sûr. C'est-à-dire, on ne peut pas se reposer sur le doute pour pouvoir se rendre quitte de son obligation lorsqu'il y a quelque chose de sûr qui précède ce cas de doute. Ragma demande, Ve'en, ça fait que Motsi mi devadai. Ah bon, vraiment, on ne peut pas se reposer sur le doute pour aller à l'encontre de quelque chose de sûr? Ve'atania, pourtant nous avons enseigné dans une boîte à Chaver Shemet, Ve'iniach Megura Melea Perot. un érudit qui est décédé et qui a laissé un panier plein de fruits. Zafiro et Mne Yoman, même s'ils ont été cueillis le jour même, Hareen Becheskat Metukanim. Nous avons la certitude que les dîmes ont été prélevés de ces fruits comme il se doit. Et donc, la Gemara demande, alors donc ici nous voyons, des Vadajvile, c'est sûr que ces fruits avaient le statut de Tevel, c'est-à-dire de fruits de lesquels les dîmes n'ont pas été prélevés. Car lorsqu'on cueille ces fruits, automatiquement, ils prennent le statut de Tevel, de fruits desquels les dîmes n'ont pas été prélevés, tant qu'on n'en a pas prélevé les dîmes. Et donc, Vadajvile en épée, c'est sûr que ces fruits avaient le statut de Tevel. Et nous avons un doute. Est-ce que les dîmes ont été prélevés? Est-ce que les dîmes n'ont pas été prélevés? Et donc nous voyons que ce doute-là, est-ce que les dîmes ont été prélevés ou pas, va à l'encontre du statut précédent, c'est-à-dire du statut duquel on était sûr qu'ils avaient le statut de Tevel. Et grâce à ce doute, on peut se reposer sur ce doute pour manger ses fruits. On me répond, Atam, là-bas. Ce n'est pas un doute qui suit un cas sûr, mais vadaï ou vadaï ou. Ce sont deux cas sûrs qui se suivent l'un à l'autre. Pourquoi? Des vadaï maasré, car c'est sûr que cet érudit a prélevé les dîmes. Et donc, puisque c'est vrai que c'est sûr qu'ils avaient le statut de Tevel, mais c'est sûr que cet érudit en a prélevé les dîmes. Que des Rebchanin Achouza, comme l'enseignement de Rebchanin Achouza, de Amar Rebchanin Achouza, car Rebchanin Achouza a dit, Chazaka al Chaver, She'en Mosi Mitachat Yado, d'avoir chez un homme étoukan. Nous avons la certitude sur un érudit qu'il ne fait pas sortir quelque chose de sous sa main qui n'est pas arrangé. Et donc, c'est sûr qu'il a, oui, prélevé les dîmes des fruits qui se trouvent dans ce panier. Veibaitema, et si tu veux, tu peux me dire une autre raison pour laquelle on a le droit de manger les fruits qui sont dans ce panier, bien que apparemment c'est un statut de Tevel sûr qui est suivi d'un doute, est-ce qu'on a prélevé les dîmes ou pas? Dilma meikara, imodelotvile. Peut-être que depuis le début, ces fruits n'avaient pas le statut de Tevel. Kereboshaya, comme l'enseignement de Reboshaya. Dama Reboshaya, car Reboshaya a dit, Maharim adam al tevoato, un homme peut ruser avec sa récolte, ou machnissa bemos shela, et la faire rentrer dans sa grange avec la paille. Et donc, s'il fait rentrer sa récolte dans sa grange avec la paille, et qu'il ne fait pas la séparation entre les grains et la paille, alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas qu'il a fini le travail du champ avant de faire rentrer la récolte dans la grange. Et donc, dans un cas pareil, il n'a pas d'obligation, d'après la Torah, de prélever les dîmes. Et donc, ce qui se passe, c'est que grâce à cela, il peut gagner que afin que sa bête puisse manger et qu'il soit exempt d'en prélever les dîmes. Car les sages ont décrété que bien que, d'après la Torah, il a le droit de manger sans en prélever les dîmes, mais d'après les sages, il n'a pas le droit de le manger. Mais sa bête a, oui, le droit d'en manger. Et donc, nous voyons que nous avons une façon de ruser pour que des fruits n'aient pas le statut de Tevel. Et donc, en fait, ici, il y a deux doutes. Il y a un premier doute. Est-ce que ces fruits avaient un statut de Tevel ou pas? Et un second doute, même s'ils avaient le statut de Tevel, est-ce que les dîmes ont été prélevés ou pas? Et donc, c'est pour cela qu'on peut se reposer sur ces deux doutes et manger de ces fruits. Alors, par contre, s'il y avait au début quelque chose de sûr et après un doute, alors à ce moment-là, on ne peut pas se reposer sur le doute. Agma demande... Si un doute suit un cas sûr, alors on ne peut pas se reposer sur le doute. Vatania, pourtant, nous avons enseigné dans une braïta, Amar Rabbi Yehuda a dit, Ma'ase beshifrato shel metzik echad berimon. Une histoire s'est passée avec une personne brute qui habitait à Rimon, et donc avec la servante de cette personne brute. Shehetila nefel labo, qu'elle a jeté à cette servante un mort-né dans un puits.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf Tet Amud Bet. Uba Kohen ve Tzitzbo est venu un Kohen et a jeté un coup d'œil à l'intérieur de ce puits. Lida pour savoir Im Zachar ou Im Nekevai. Pour savoir si ce mort-né c'était un garçon ou une fille. Car il y a une différence si c'est un garçon ou une fille, combien de temps cette femme reste impure. Ou ba ma'ase lifnei chachamim, et cette histoire-là est venue devant les sages, vetihuru, et ils l'ont rendue pure. C'est-à-dire, il y a une loi qui nous dit qu'un mort-né, ou n'importe quelle personne qui est décédée, le corps d'une personne qui est morte, rend impur. Mais pas seulement cela, tout ce qui passe au-dessus de ce corps-là devient lui aussi impur. Donc en fait, le Kohen, lorsqu'il a jeté un coup d'œil dans le puits, il est passé en fait au-dessus du corps du mort-né. Et donc il est devenu, normalement, il aurait dû devenir impur. Et nous voyons ici que dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que les sages ne l'ont pas rendu impur et l'ont laissé pur. Pourquoi ? Mipnei shechulda ou bardelas mitzuim sham. Car les belettes et les martes se trouvent là-bas. Et donc, on se repose sur les belettes et les martes qu'elles ont tiré le corps de ce mort-né du puits. Et donc, lorsque le Kohen a jeté un coup d'œil dans le puits, le mort-né n'était déjà plus là-bas. Agma demande, Veacha. Donc, nous voyons que ici, des vadaïtila. C'est sûr qu'elle a jeté le mort-né dans le puits. Vesafek geraro, vesafek lo geraro, Aishata. Et il y a un doute, est-ce que les belettes l'ont traîné de là-bas, à ce moment-là, ou pas? Et nous voyons donc que cette situation de doute va à l'encontre de la situation sûre qu'il y avait avant, mais malgré cela, on se repose sur cette situation de doute afin de purifier le Kohen. Alors, on va répondre, non. Il ne faut pas dire que cette servante a jeté un mort-né dans le puits. Et la ima, chez Pila, kemine fait labor. Il faut dire qu'elle a jeté quelque chose qui ressemblait à un mort-né dans le puits. C'est-à-dire, elle a accouché de quelque chose. Maintenant, on ne savait pas si c'est quoi. On ne sait pas si c'était un mort-né. Et donc, c'est ce qu'elle a jeté dans le puits. Et donc, ça rend impur. Ou peut-être que c'était juste un bout de placenta qui sans aucun corps. Et donc, ça ne rend pas impur. Et donc, vave, ça fait qu'on ça fait. Et donc, ce sont deux doutes. C'est-à-dire, un premier doute. Est-ce que c'est un mort-né ou pas? Et un second doute, même si c'est un mort-né, peut-être que la belette a traîné ce mort-né d'ici et qu'il n'y est plus. L'agma demande, Ve'al idaim zacharu imne kevai. Comment pouvons-nous dire une chose pareille? Pourtant, nous avons dit que le Kohen a regardé dans le puits pour savoir si c'était un garçon ou une fille. Donc, c'est sûr que c'était un mort-né. Nous n'avons pas de doute là-dessus. Ktane nous avons enseigné. L'agma répond, Arikamar, c'est comme ça qu'il faut dire. Il faut d'abord savoir, est-ce que c'était peut-être juste du vent qu'elle a accouché, c'est-à-dire juste un placenta sans aucun corps, ou alors peut-être que c'était un mort-né qu'elle a accouché. Et même si tu veux me dire que c'est un mort-né qu'elle a accouché, il faut savoir, est-ce que c'est un garçon ou une fille. Donc c'est pour ça que le Kohen est parti regarder dans ce puits. Mais donc, déjà depuis le début, on n'était pas sûr qu'il y avait là-bas un corps. Et si tu veux, tu peux me dire une autre raison pour laquelle on a purifié le Kohen. Atam vadai ou vadaiou. Là-bas, ce sont deux cas sûrs. C'est-à-dire, c'est sûr que la servante a jeté ce mort-né dans le puits, et c'est sûr qu'une belette l'a traîné de là-bas. Pourquoi? Kevan de Khulda ou Bardelas Mitsuhim Sham, étant donné que les belettes et les martes se trouvent là-bas, vadai geraru be'aishata. C'est sûr qu'ils l'ont traîné à ce moment-là. Né. Nehi, de shiure, meshaira, migrar miat, vadai gerarum beishata. C'est-à-dire, bien que, lorsqu'elles mangent, alors toujours, elles ont des restes, comme nous avons vu dans la Mishnah à propos du Hametz, on craint qu'il y a des restes, mais, et donc c'est pour cela que, dans la Mishnah, on a besoin de faire une seconde vérification du Hametz, mais le traîner, c'est sûr qu'elles ont traîné du puits à ce moment-là. Et puisque c'est sûr qu'elles ont traîné du puits à ce moment-là, alors le Kohen, lorsqu'il a jeté un coup d'œil dans le puits, en fait, il n'est pas passé au-dessus de ce mort-né, et donc il n'est pas devenu impur. Et nous sautons les mots qui sont entre parenthèses, et nous passons à la ligne suivante. Umi amrinan en chosheshim shema gerar chuda. Maintenant, la Gemara revient sur notre Mishnah. Nous avons vu que dans notre Mishnah, on ne craint pas qu'une belette a traîné du chametz de quelque part et l'a amené dans cette maison qui a déjà été vérifiée. Vaktanesef, alors la Gemara demande à bon. Pourtant, nous avons enseigné dans la fin de notre Mishnah, Mashé Mishayev, ce qu'il reste de Hametz après la vérification du Hametz, Yenichenu Betina. On le déposera dans un endroit caché, chez l'Oyetzer Dikara, afin qu'on n'ait pas besoin de vérifier une seconde fois. Donc nous voyons ici que même s'il reste du Hametz, il faut le déposer dans un endroit caché, car si on ne le dépose pas dans un endroit caché, alors on peut craindre qu'une belette va prendre ses bouts de Hametz et va les disperser dans la maison, et donc il faudra à nouveau vérifier le Hametz. Amar Abaye, Abaye nous dit, lo kasha, ce n'est pas une question. Aber Barasar, Abeshloshasar. Ici nous parlons du 14 Nissan, et ici nous parlons du 13 Nissan, c'est-à-dire, Beshloshasar de Shriach Grifta Bekulubate, lo Mitzana. Le 13 Nissan, où il est courant de trouver du pain dans toutes les maisons, alors on n'a pas besoin de le cacher, car on ne craint pas qu'une belette va traîner du pain d'une maison à une autre. Par contre, le 14 Nissan, où il n'est pas courant de trouver du pain dans toutes les maisons, car c'est veille de Pessah, c'est pour cela que celui qui en a, il devra le déposer dans un endroit caché. Amarava, alors Rava lui demande à Abaye, est-ce que cette belette est une prophète? Car pour savoir qu'aujourd'hui, on est le 14 Nissan, et qu'on ne va pas cuire de pain jusqu'au soir, ou meshaira ou metamra, et donc elle va en garder et en cacher. C'est pas logique ce que Abaye nous dit. C'est-à-dire, Rava nous dit que, étant donné, Abaye nous dit qu'il y a une différence entre le 13 et le 14. Le 13 qui a du pain, alors on ne craint pas que la belette va traîner du pain d'une maison à une autre. Par contre, le 14 où il n'y a pas beaucoup de pain, on craint oui. Alors Rava lui demande à Abaye, c'est pas logique. Si la belette a la nature de garder du pain, alors il n'y a pas de différence entre le 13 et le 14. Et si la belette n'a pas cette nature de traîner du pain et de le cacher d'une maison à une autre, alors il n'y a pas de différence aussi entre le 13 et le 14. Elle ne fait pas la différence, car elle ne sait pas qu'on est le 13 ou le 14 Nissan. Et là, Marava, alors Rava nous dit une autre raison. Pourquoi il y a certaines fois on craint que la belette traîne du Hametz d'un endroit à un autre ou pas. Amarava, Mashe Meshayer Yenichenu Betina, ce qu'il garde, il devra le déposer dans un endroit caché. Shema titol chulda befanenu, de peur qu'une belette devant nous prenne d'un de ces morceaux de Hametz. Et à ce moment-là, veillez de s'arriver de kacha. À ce moment-là, on aura besoin de faire une seconde une vérification. Tanya kevate de Rava, l'agma nous dit que nous avons enseigné dans une braïta suivant l'avis de Rava. Harotze lechol chamet achar bdika, celui qui veut manger du Hametz après la vérification du Hametz, c'est comment fera-t-il? Mashe Meshayer, ce qui lui reste, Yenichenu Betina, il le laissera dans un endroit caché, Shelotavo Chulda Vetitol Befanenu, afin qu'une belette ne vienne pas et prenne de ce Hametz devant nous, et lorsqu'on voit que la belette prend du Hametz, Veyetzer Bdika Harav, à ce moment-là, on aurait besoin de faire une seconde vérification après cela. Rav Marie nous dit une autre raison pourquoi des fois on craint, des fois on ne craint pas. Gzera Shema Yaniach Ezer Bemsatesha. On craint qu'il dépose 9, par exemple, 9, qu'il a 10 bouts de Hametz et qu'il les dépose dans un endroit, et que lorsqu'il revienne, il n'en retrouve que 9. Et donc c'est sûr qu'il y en a un qui a disparu. Dans un cas pareil, même s'il n'a pas vu qu'une belette a pris du pain, il sera obligé de vérifier le Hametz dans toute la maison. Car ici, il lui manque un morceau de pain, il faut qu'il retrouve où ce morceau de pain est passé. La Gemara continue, nous dit. Teisha Tziburin Shel Matzah. Si quelqu'un avait chez lui à la maison 9 tas de matzah, ve'achat shel chametz, et un tas, c'était un tas de chametz, c'est-à-dire de pain, ve'ata achbar, est venu un rat, ve'shakal, et a pris quelque chose d'un de ces tas, ve'lo yadinan imatzah shakal, i chametz shakal. Et on ne sait pas si ce qu'il a pris, c'était de la matzah, ou du chametz, ou du pain. Alors, comment faisons-nous? Est-ce qu'on a besoin de vérifier une nouvelle fois ou pas? Alors, on nous dit, c'est le cas des 9 magasins. Ils nous ont expliqué un peu plus bas. Piresh Vatarba, si un morceau de pain ou de matzah est sorti de cet tas-là, est venu un rat, Veshakal, et a pris ce morceau qui est sorti de cet tas-là, Haïnou Sefa, ça c'est la fin de la Mishnah des 9 magasins. Dites-nous, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Lorsqu'il y a 9 magasins en ville, Kulan Mochim Basar Shkuta, tous les magasins vendent de la viande qui provient d'une bête qui a été abattue rituellement. Et un magasin de cette ville vend de la viande qui est d'une bête qui n'a pas été abattue rituellement. Et quelqu'un est rentré dans un magasin, un de ces magasins de la ville. Mais il ne se rappelle pas de quel magasin il a acheté de la viande. Alors dans le doute, c'est interdit de manger cette viande. Et donc, de même, lorsqu'il y a 9 tas de matzah et un tas de chametz, et que nous avons vu un rat qui a pris de un des tas, mais on ne sait pas de quel tas, alors dans un cas pareil, on ne se repose pas sur la majorité, nous disons que sur le doute, alors c'est interdit et nous devons vérifier à nouveau toute la maison. Au Benimsa, par contre, dans le cas des 9 magasins, s'il a trouvé en ville de la viande, et il ne sait pas si cette viande provient des 9 magasins cachers ou du 10e magasin qui n'est pas cachère, alors à ce moment-là, on suit la majorité, et puisque la majorité des magasins, ce sont des magasins cachers, alors on a le droit de manger cette viande. Et donc, de même, à propos d'un rat qui aurait pris un bout de pain, et on ne sait pas si c'est du pain ou de la matza, alors si ce bout est sorti d'état, et le rat, elle est venue, a pris ce bout, ce morceau, après que ce morceau soit sorti d'état, alors ça ressemble à un morceau de viande, une fois qu'il est sorti des magasins, de même si le morceau est sorti d'état, et lorsque le rat l'a pris, alors on peut se reposer sur la majorité, étant donné que la majorité d'état ici, ce sont des majorités d'état de matza, alors on dit que le rat, ce qu'il a pris, c'était un morceau de matza, et on n'a pas besoin de vérifier une seconde fois la maison. Maintenant, la Gemara apporte un autre cas. Shnei tziburim, dans un cas où il y a 2 tas devant nous. Echad shel matza, vechad shel chametz. Un est un tas de matza, et l'autre, c'est un tas de chametz. C'est-à-dire, il y a une pile de pain de matza, une pile de matzot, et une pile de pain chametz. Velifneim shnei batim. Et devant chacun de ces tas-là, il y a 2 maisons. Echad badouk, vechad shel badouk. Une maison dans laquelle on a vérifié qu'il n'y a plus de chametz déjà, une maison dans laquelle on n'a pas encore vérifié. Va toucher arbarim et sont venus 2 rats. Echad shakal matza ve echad shakal chametz. Et un des rats a pris un bout de matza et l'autre rat a pris un bout de chametz. Ve lo yadinan ei lehayayil ve ei lehayayil. Et on ne sait pas quel rat est rentré dans quelle maison et quel rat est rentré dans quelle maison. C'est-à-dire ici il y avait de la matza et du chametz, une maison vérifiée et une maison pas vérifiée. Il y a un rat qui est venu qui a pris de la matza et qui est rentré dans une maison. Et il y a un autre rat qui est venu qui a pris de la chametz et qui est rentré dans une autre maison. Et on ne sait pas quel rat est rentré dans quelle maison. Alors la Gemara nous dit, Haïnu shtei kupot. Ça ressemble au cas de 2 caisses. Ditnan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Shtei kupot, quelqu'un qui a devant lui 2 caisses. Achat shel chulin ve achat shel truma. Une caisse dans laquelle il y a des fruits qui sont profanes, qu'on peut manger, que n'importe qui peut manger. Et une caisse dans laquelle il y a des fruits qui sont trouma, c'est-à-dire de la dîme que l'on doit donner au Kohen. Velifneem, shtesim. Et devant chacune de ces caisses, il y a une mesure de fruits. Echad shel chulin, ve'echad shel truma. Une mesure de fruits d'un séa de fruits profanes, et une mesure de fruits de truma. Venavlu elu letoch elu. Et chacune des mesures de fruits est tombée dans une des caisses. Et je ne sais pas quelle mesure de... C'est-à-dire, je ne sais pas quel fruit est tombé dans quelle caisse. Je ne sais pas si ce sont les fruits profanes qui sont tombés dans la caisse de fruits profanes ou dans la caisse de fruits trouma, ou si les fruits trouma sont tombés dans la caisse de fruits profanes ou de fruits trouma. Je ne sais pas. Alors, nous disons que mutarim, on a le droit de manger la caisse de fruits profanes et la caisse de fruits trouma, on la donnera au Kohen. Pourquoi ? Shani Omer, Chulin l'etor Chulin naflou, Vetrouma l'etor Trouma naflou. Car je dis que les fruits profanes sont tombés dans la caisse de fruits profanes, et les fruits de Trouma sont tombés dans la caisse de fruits Trouma. Et donc, de même, chez nous, je dis que le rat qui a pris le morceau de Chametz est rentré dans la maison dans laquelle on n'a pas encore vérifié le Chametz, et le rat qui a pris le morceau de Matza est rentré dans la maison dans laquelle on a déjà vérifié le Chametz. On me demande. Je peux dire qu'on dit ce raisonnement, je dis que les fruits profanes sont tombés dans la caisse de fruits profanes et les fruits trouma sont tombés dans la caisse de fruits trouma.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.